Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Avant de commencer cette émission, j'avais un petit message à passer de toute la part de l'équipe, une petite réflexion qui nous est venue il y a quelques jours. Est-ce que, voilà, la musique démarre, effectivement, c'est doux, c'est intense. Alors, la réflexion était, pourquoi apprend-on des choses à un enfant? Est-ce que vous le savez, messieurs? Messieurs, dames, d'ailleurs? Personne n'en a aucune idée ici, effectivement. C'est vrai, pourquoi on pourrait simplement se dire qu'un enfant est trop con et le laisser pour le reste de sa vie baigner dans sa médiocrité? Parce que s'il n'apprend pas, un enfant ne peut pas savoir. Si l'on reste focalisé sur ce qu'il était, on ne pourra au grand jamais voir ce qu'il est devenu. D'ailleurs, si on a accepté d'avoir cet enfant, c'est bien pour le voir s'épanouir. Et accepter le fait qu'il ne sera pas son clone et qu'il arrivera à développer sa propre personnalité. Et ça, il va falloir l'accepter, ne pas regarder tout le temps dans le rétroviseur, quitte à remettre en cause ses croyances et ses acquis, car comme vous le savez sûrement, le monde évolue. Et ouais, c'est une grande nouvelle. À vous, chers auditeurs, de vous faire votre propre interprétation de cette réflexion. Cette intro aurait pu finir sur une blague absolument infâme, hein, à base d'enfants, mais il aurait fallu l'aide de professeur Gorfus et d'un énorme pot de vaseline et de fesses toutes roses. Parlons plutôt jeux vidéo, c'est parti, bienvenue dans le 36e numéro de C'est la faute à la
manette.
Ouais, ça marche super bien. Nous sommes donc ensemble de 20h à 21h sur Radio Campus Tour, et cette semaine on va accueillir Ludo. Bonjour Ludo.
Bonjour.
De l'association Palo Alto, hein, je ne me trompe pas,
c'est
bien ça, qui va nous parler de création numérique et de game jam, hein, notamment, c'est ça.
Tout à fait.
On aura également Sushi, hein, le nouvel arrivé à temps partiel, qui nous présentera quoi alors? Qu'est-ce que tu veux?
Level Virtual, du coup, je vais vous présenter un petit salon sur l'innovation.
D'accord, ok. Je reviendrai également avec l'aide de Tom sur le début de Persona 5, hein, qui est
tout
sorti aujourd'hui, le jeu événement de cette semaine.
De cette décennie.
De cette décennie, on peut le dire. Donc autour de la table, hein, le PCiste que personne ne nous envie, c'est Tom. Bonjour Tom.
Salut à tous, salut Julien.
Tu vas bien?
Oui, ça va mieux.
Cool. Juste à sa droite, c'est un gentil galopin, coquin, câlin, ce n'est pas Petit Ours Brun, mais c'est Ferdi. Bonjour Ferdi.
Bonjour à tous.
Également autour de la table, il y a comme d'habitude un Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour tout le monde.
Et on a plein de spectateurs aujourd'hui, on commence à être célèbres. D'ailleurs, on commence une tournée, on lance un appel aux dons, hein, dès la fin de cette émission. En plus d'un Facebook Live, hein, je crois, qui est actuellement en direct. Tu confirmes Guillaume? Est-ce que ça marche?
Est-ce que ça marche?
Normalement oui.
Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir des images animées de nous?
Alors, visiblement, peut-être pas.
Ah, c'est génial.
Du coup,
la technologie.
En attendant, on va passer directement aux news. Qu'il y a une news qui vous a tout simplement marqué cette semaine, messieurs? On va commencer par toi, Ferdi.
Alors, moi, il y a l'ouverture d'un Virtual World. Donc, c'est un centre de réalité virtuelle pour tester les nouveaux casques, les nouveaux tapis, etc., qui s'ouvre à Tours à partir du 7 avril prochain.
D'accord.
Alors, c'est dans la rue du Buck, voilà, pour ceux qui connaissent.
Alors, c'est où exactement?
Je ne sais pas.
D'accord, personne ne connaît.
De toute façon, c'est simple. prenez le bar, de toute façon à Tours c'est comme ça que ça marche, hein. Le bar donne la direction de l'endroit.
C'est ça.
Voilà. D'accord.
Et donc c'est un centre où on pourra essayer des jeux, des choses comme ça. Donc l'inauguration, ils font des séances gratuites de 10 minutes.
D'accord. Voilà,
qui permettent de voir un peu la nouvelle technologie. Moi j'irai faire un tour, je pense, j'irai voir un peu ce que ça donne.
D'accord, voilà. C'est un peu comme la drogue, une petite dose c'est en ça. Premier, une petite dose gratuite. Avec modération, voilà. Hein, bien sûr, évidemment. Tom.
Alors moi je vais avoir une petite news sur un jeu qui est cher à mon cœur, un jeu de DS à la base qui s'appelle Radiant Historia. C'est un RPG assez obscur de chez Atlus, comme tous les RPG assez obscurs.
Effectivement.
Et comme tous les RPG de chez Atlus, il est très bon. C'est un jeu où on voyage dans le temps, un petit peu comme un Final Fantasy XIII qui serait bien.
D'accord.
13-2 pardon, qui serait bien.
Et XIII qui serait bien aussi. Hein,
et oui, ou XIII qui serait bien. Ouf, voilà. Et donc il va avoir un remake sur 3DS. Et donc ça c'est très cool. Mis à part que les designs ont changé, mais bon, la musique est par Yoko Shimomura, donc c'est pas la dernière.
Ok.
C'est vraiment un jeu hyper hyper cool. Donc guettez le remake, ça nous permettra de l'avoir en Europe, puisqu'en fait l'original sur DS n'est sorti qu'aux US et au Japon.
D'accord, très bien. Guillaume, est-ce que tu avais une news hein, tu m'en as parlé tout à l'heure et c'était assez rigolo.
Tout à fait, c'est Jacques Cheminade, je vous en avais parlé il y a 2 semaines, qui avait dit que les jeux vidéo, il voulait mettre une taxe dessus, voire les interdire parce que ça rendait trop violent. Et du coup, il a fait une petite vidéo YouTube en réponse à un YouTuber qui s'appelle Kirby54, il me semble. Et je vous conseille d'aller voir, si vous êtes fan de jeux vidéo, voir comment c'est rigolo quand vous voyez un papy parler jeux vidéo.
Voilà, c'est ça, un papy qui parle de jeux vidéo à quelqu'un qui représente très mal les jeux vidéo.
C'est le papy qui répond à un cancer, en fait.
C'est ça, voilà, c'est deux trucs qui vont pas, qui se répondent, c'est exceptionnel. Ça représente bien un petit peu ce qu'est le pire sur internet dans le niveau jeux vidéo mélangé, quoi.
Effectivement,
c'est des pires idées, quoi. Les politiciens veulent être cool, quoi, toujours.
Bah, ouais.
Mais là ça ne marche non,
là,
pas.
Là, ça marche là, pas, ça marche du,
pas
tout,
du
quoi.
Tout, effectivement. Moi, j'avais une news intéressante, enfin, en tout cas, ça paraît logique. 25 millions de jeux The Witcher qui ont été vendus, hein, de l'ensemble de la saga sur toutes les plateformes. Ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle, hein, pour le jeu vidéo, que ce soit pas que des Call of Duty.
Oui, qui, bah, de toute façon, ce n'est plus des Call of Duty maintenant.
Ce n'est plus effectivement des.
Si on regarde les chiffres des indépendants, des studios un peu indépendants, comme celui de Witcher, qui est quand même petit. Enfin, c'est pas un gros studio. Ça commence à monter.
Je suis d'accord.
À savoir
les joueurs se réveillent.
C'est un jeu vidéo qui avait été financé par l'Union Européenne. Voilà, j'en parle comme ça.
Ah, le premier ou le
3
Le 3.
Le financement a été aidé par l'Union Européenne. Je pense que c'est important de le dire en cette période.
Enfin, quelque chose d'utile, hein, fait par là. Alors, il ne reste plus que toi, Sushi. Est-ce que tu avais une news pour cette semaine?
Alors,
bien près du micro, là.
Voilà. Alors, j'avais chopé un jeu sur mobile en rapport avec les élections prochaines, où on pouvait justement smasher les personnes qui voulaient se présenter, mais je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Alors, je vais essayer de le retrouver. Je te repasse le micro.
C'était une news passionnante, merci beaucoup.
Merci. Jouer à ce jeu inconnu.
En attendant que tu le retrouves, on va demander à Ludo, hein, s'il n'avait pas une news de jeu vidéo ou gaming ou geek de la semaine. Est-ce qu'il y a un truc qui t'aurait marqué peut-être cette semaine?
Tu me prends complètement de court là.
Je sais. C'est ma spécialité, effectivement. Ou même de ces derniers temps, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de ces dernières années, si vraiment tu n'es pas sorti depuis très longtemps.
La NX est attendue à l'année 2017.
J'ai entendu parler de la NX, ça a l'air très bien.
D'ailleurs, on t'a pas demandé, Ludo, quel est ton Zelda préféré?
Oui.
Ça, c'est important.
Je suis pas un grand fan des Zelda, j'ai pas mal joué malgré tout, mais celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'était celui sur la Super NES. J'ai pas le nom là comme ça.
Link to the Past.
Link to the Past, c'est ça.
Okay. C'est un bon choix.
C'est un choix raisonnable, on va dire.
ça vaut pas Minish Cap de Guillaume, mais.
Alors, est-ce que tu as retrouvé ton fameux jeu? Non, eh ben on verra plus tard, continue à chercher. Nous, on va directement enchaîner par les news. Et on va revenir avec Tom, hein, sur nos premières impressions de Persona 5. Est-ce qu'on a un petit jingle, peut-être le jingle de Tom? Même si c'est pas un jeu PC inconnu, hein, c'est parti. You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. Voilà, donc on va vous parler de Persona 5 hein, avec l'ami Tom.
En tout cas, alors, son intro.
Il y a un gros paquet de galettes hein, que vous voyez peut-être au Facebook Live. Vous pouvez vous servir dedans, hein, ça sert à ça même, ça, à faire des bruits absolument horribles pendant l'émission.
C'est génial.
Vous pouvez
commencer à faire des bruits insupportables, je vais...
Vas-y, fais-le une fois, les bruits insupportables.
C'est la SMR d'abord.
Voilà. Faites-le une fois, ça va bien pourrir l'émission, ça va être parfait, nickel.
Merci,
voilà, ça s'est refermé. Du coup, Tom, Persona, alors, décris-nous un petit peu ce que
on va commencer par parler de Persona. Donc Persona, c'est une sous-série d'une grande série de jeux qui s'appelle Shin Megami Tensei. Ça sort sur principalement les consoles Sony, mais pas que. Mais on va dire principalement les consoles Sony. Et donc Persona, c'est comme je vous disais, une sous-série dans laquelle, dans chaque épisode, en fait, on va jouer un lycéen qui va passer un an dans une école. Et donc le jeu se fait en deux phases. Il y a la phase où on est à l'école, donc on va devoir se faire des amis, répondre aux questions des profs, faire des petits boulots pour faire un petit peu de sous, etc. Et dans la deuxième partie du jeu, on va devoir tabasser des monstres dans un univers un petit peu sérieux, le tout donc baigné d'une histoire justement assez sérieuse, encore une fois, hein, avec des thèmes qui sont adultes. Pourquoi est-ce que Persona, c'est très bien, Julien, que tu es très fan de la série Persona?
Alors, je suis effectivement extrêmement fan, mon préféré restant le 4, hein, de manière assez personnelle. L'autre personne qui habite avec moi préfère effectivement Persona 3, hein, d'ailleurs, elle est là, effectivement. Pourquoi Persona, c'est bien? Parce que c'est, je pense, l'équilibre parfait entre le jeu japonais traditionnel et finalement... C'est assez étrange à expliquer Persona.
C'est-à-dire que c'est un jeu qui a beaucoup de nouveautés en fait à l'intérieur, qui fait vraiment frais par son interface, par sa musique, par Shoji Meguro si je ne m'abuse, qui a vraiment une OST hyper jazzy, hyper différente en fait de ce qu'on voit dans les RPG habituels, et un système de combat qui est pour le coup hyper classique, avec du tour par tour sans ATB. Donc c'est vraiment classicisme.
Et surtout, il a une identité assez visuelle très marquée. Hein. Pour et le 3, c'était beaucoup sur le thème du sombre, de la mort, beaucoup
du suicide même.
Du suicide,
en fait.
Notamment. Pour le 4, c'était vachement plus pop, hein. Du coup c'était un jeu ultra coloré, c'était voilà, vraiment la pop culture, tout ce qui était télévisuel, tout ça. Et sur le dernier, on part vraiment dans un univers carcéral.
C'est ça, on parle de rébellion
On parle de rébellion et on parle aussi d'injustice énormément dans ce jeu. Moi, c'est le sentiment que m'a laissé ce jeu.
C'est ça, alors en fait, Persona 5, qu'est-ce que c'est le pitch? En gros, on va commencer avec un début in medias res, donc directement dans l'action. Notre héros braque un casino et se retrouve pris par la police. Alors je vous souhaite pas trop, évidemment, ça c'est les 5 premières minutes.
Oui, vraiment les 5 premières.
On se fait attraper par la police et donc on va subir un interrogatoire après s'être fait dûment tabasser. Et on va devoir donc raconter, bah, évidemment, l'inspecteur nous dit, enfin notre avocate en fait nous dit, bon bah tu vas recommencer dès le début, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois. Et du coup on va raconter comment est-ce qu'on en est venu à braquer ce casino.
Exactement.
Mais vraiment en repartant du départ. Et donc on est vraiment sur un thème qui est assez sérieux, où ça parle directement de maltraitance, de ce genre de choses, de prise de pouvoir, et vraiment en restant dans un monde plutôt on va dire réaliste, celui de l'école, mais en prenant son parallèle justement très fantastique, et c'est pour ça que ça marche très bien.
Donc vraiment très inspiré d'Arsène Lupin, hein, pour cette fois. Alors là,
la persona du héros s'appelle Arsène, hein, d'ailleurs. Niveau mécanique du gameplay, par rapport, on va plus parler aux gens qui connaissent déjà la série Persona, niveau mécanique du gameplay, on est sur du très classique avec quelques petites nouveautés. C'est surtout qu'on est un voleur, et donc on va devoir cette fois un peu s'infiltrer dans les palaces, et que, alors jusque là en tout cas, je suis un tout petit peu plus loin que Julien, mais jusque là quasi une nouveauté dans la série, les palaces, donc les donjons, ne sont pas générés aléatoirement.
Oui, c'est des donjons déjà,
c'est très nouveau, donc faut voir ce qu'ils vont faire avec le level design. Moi j'ai commencé à explorer le premier palace dont je vous ne dirai rien. Il y a l'air d'avoir un petit peu de level design assez cool, mais voilà, on n'est pas sur du Dark Souls non plus,
c'est sûr.
Donc on va dire bien, mais doit faire ses preuves au fur et à mesure du jeu. Par contre, point fort de dingue, l'histoire est fantastique, les personnages sont hyper bien écrits, les menus sont magnifiques.
On en parle, hein, des menus, hein. c'est les plus beaux menus qu'on ait vu de notre vie sûrement, hein.
Alors peut-être pas de ma vie, mais en tout cas c'est des menus qui sont géniaux, qui sont hyper stylisés, hyper beaux, qui marchent hyper bien et qui sont lisibles. Donc en fait tout ce qu'on leur demande.
Et pourtant ça paraît con comme ça, mais il y a très peu de jeux qui arrivent à ce niveau.
Qui arrivent à avoir un vrai menu, voilà.
Ça
voilà.
Rendra pas le menu Skyrim, Fable 3, hein,
Edgar. Ouais, voilà, c'est pas exactement, c'est pas Fable 3 finalement, c'est ça. Que dire de plus sur Persona? Bon là, moi je dois en être à 6-7 heures de jeu.
Les musiques
sont excellentes. Hein, c'est difficile de jauger de toute façon ce genre de jeu-là sur un si court temps. En fait, même si 6-7 heures de jeu, c'est plus ou moins un Call of Duty. Faut pas oublier que sur un RPG comme ça, moi là où j'en suis, l'histoire a à peine commencé. Julien est encore dans l'intro, donc on est vraiment sur le début, mais en tout cas, quasi que du bon. Et point bonus pour les personnages qui sont vachement plus sympa que dans Persona 4 où ils avaient un peu qu'une seule facette de leur personnalité, même s'ils étaient cool. Là on est sur des personnages qui sont hyper nuancés, le jeu est très grossier aussi, ce que j'ai particulièrement apprécié parce que les jeunes parlent comme des jeunes, hein.
Ils s'expriment pas comme dans les années 40,
ils s'expriment pas en disant juste oh mais qu'est-ce qui se passe,
oh
je me
Dieu.
Demande, et ils sont là genre oh, putain de bordel, c'est quoi ce foutoir. Donc c'est vraiment bien, ça c'est vraiment très très agréable d'avoir une sorte de vision qui est un peu réaliste justement.
Et tu joues sur PS3 ou PS4?
Alors j'y joue sur PS3, j'ai dû utiliser la phrase du collectionneur qui est toujours payé plus cher pour la même chose, et donc j'ai pris le jeu sur PS3 et sur PS4 pour y jouer uniquement sur PS3 puisque la collector n'est pas sur PS3.
Et ben moi j'ai fait pareil, je l'ai acheté sur PS3 et sur PS4 pour y jouer uniquement sur PS4.
Sur PS4, donc voilà. Quoi, vous êtes en présence de deux abrutis.
Deux abrutis. Si vous ne trouvez plus d'édition PS3, c'est à cause de nous. Hein,
voilà. Désolé, nous les avons toutes achetées. Voilà. Vous pouvez les acheter auprès de nous pour le prix de 200€ l'unité.
C'est pas un des derniers jeux PS3 là, on n'approche
pas des derniers
jeux PS3
quand c'est sorti. Ce sera le dernier meilleur jeu.
Oui, il y aura toujours un FIFA qui sortira encore dans 3 ans, mais d'accord. Et voilà. Donc c'est encore un excellent jeu qu'on attendait et qui finalement
ça
déçoit personne.
Ça va être une tuerie, je pense.
Moi en tout cas jusque là, il est au-dessus de ce que j'en attendais. On a le chroniqueur à côté qui veut.
J'avais une petite question. Moi je suis fan de Persona 4 Arena, le jeu de combat qui était super, et je voulais savoir s'il prévoyait d'en faire un pour le 5 du coup.
La réponse est
je sais pas. Ce serait cool. Peut-être même un add-on.
S'il y a des auditeurs, on est prêt à faire un tournoi. Ici, on est beaucoup et on aime beaucoup.
On aime bien les jeux de combat en général.
Et ce jeu-là, c'est vrai que ce serait cool
d'avoir peut-être un add-on de P4 Arena qui était vraiment chouettos.
Avec peut-être des personnages du dernier.
Ouais.
Et je sais pas si ça peut un problème de droit aussi.
Non, c'est toujours Atlus.
Ouais, mais on sait jamais. Tu vois, vu que c'est.
Il y a moyen de moyenner.
Ouais.
De toute façon, on vous le conseille hein, au prix fort. Hein, comme
oui, achetez-le à 200 euros comme nous.
Même
hein,
à 200 euros, de toute façon, on mettra le lien d'ailleurs sur nos reventes personnelles juste après.
Ah oui, Kirby 54, hein, voilà. Si tu nous entends, tu nous as inspiré.
Voilà, ce sera tout pour Persona 5. On va passer du coup à Guillaume qui voulait nous parler d'un site, hein, je crois, Russian Game.
Oui, tout à fait. On se met le jingle.
Oui, un joli. Après.
Yeah. Yo, je suis radin mais ça m'empêche pas d'être un mec sympathique. J'ai des oursins dans les poches et quand faut payer, ça pique. Les Romains qui tendent la main au feu pour moi, c'est des sadiques. Je voudrais payer mes factures avec une baguette magique.
Comme l'a dit Julien, aujourd'hui je vais vous parler, du coup dans ma chronique du Rouradin, je vais vous parler du site Russian Game, qui est un site en fait sur le même esprit que le site venteprivée.fr ou tout site de vente privée. Et en fait le principe c'est de faire des ventes privées de jeux vidéo. Et là où vous vous dites, ouais, bon, bah au pire, je peux acheter mon jeu sur un site moins cher facilement. Et en fait, l'avantage de Russian Game, en fait, c'est qu'ils font des ventes privées aussi, par exemple, de jeux de, je sais pas, de Mega Drive, des jeux de vente privée, de vieux jeux de Nintendo DS, de vieux jeux de N64. Et du coup, vous pouvez vous inscrire, acheter peut-être pas les jeux au meilleur prix, mais au moins, vous pouvez retrouver facilement peut-être certaines perles rares. Et je trouve ça plutôt intéressant. Il y a aussi, bien sûr, des ventes privées sur des jeux qui vont sortir. Donc, vous, souvent, par exemple, un jeu qui coûtera 70 euros. Coûtera sur Russian Game une 60aine d'euros, ce qui reste quand même un prix assez important quand on sait de plus en plus aujourd'hui qu'on peut trouver des jeux Day One à 54 euros dans certains magasins. Mais voilà, je voulais en parler vite fait pour avis aux collectionneurs et aux amateurs de jeux vidéo. Je pense que ce site peut intéresser certains.
D'ailleurs, je voulais revenir sur Russian Game qui a l'exclusivité des jeux Dreamcast qui sortent en 2017. Ils ont notamment cette exclusivité-là et ça, c'est important d'en parler. Ça pourrait parler aux collectionneurs. Oui. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a toujours des jeux qui sortent sur la défunte Dreamcast hein, qui est morte depuis tellement longtemps. Et tous les ans, il y a au moins un ou deux jeux. Et cette année, c'est une grosse année pour la Dreamcast car elle va recevoir 4 ou 5 jeux. Hein, je sais pas exactement.
Plus que la Wii U.
Plus que le line-up de la Switch. Finalement.
Exactement. Ce qui est assez incroyable. Non, en tout cas, c'est super intéressant parce que les jeux sont disponibles, je crois, pour une 40aine d'euros pièce. Et avoir un nouveau jeu Dreamcast en 2017, ça a quand même de la gueule.
Un nouveau bon jeu. Hein. Généralement, plus c'est des jeux qui sont préparés par des fans.
Il y a deux shoots. Ouais. y a un jeu de baston, il y a un jeu de plateforme, mais je sais plus le dernier.
Mais moi j'avais déjà joué à certains de leurs éditions et c'était toujours des bons jeux. J'ai jamais été déçu.
Si j'ai bien compris, on peut les acheter que sur Russian Game.
Je crois que c'est pour l'Europe ou pour la France, c'est une exclusivité Russian Game. Okay. Je peux me tromper peut-être directement sur le site de l'éditeur, mais en gros partenariat, je crois que c'est les seuls à les proposer.
À distribuer
sur leur site.
En version neuve.
Voilà. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'était important de le souligner. T'avais autre chose peut-être, Guillaume?
Oui, je voulais faire un retour aussi sur... bon là, c'est plus du tout sur, dans le cas de ma chronique sur le Rouradin. C'est pour parler du jeu For Honor, du coup, parce que j'ai pu y jouer un peu plus en profondeur que Tom, qui avait essayé la bêta, il me semble. Et moi, du coup, je l'ai reçu avec une clé par l'achat d'un composant informatique. Et du coup, j'ai pu faire 3 ou 4 heures de solo, et j'ai pu faire quelques heures de multi. Alors le solo, en fait, est très bien parce qu'en fait, il forme au multijoueur, donc vous apprenez à jouer avec chaque classe en fait, du jeu, avec des petits scénarios sur les vikings, des petits scénarios sur les chevaliers, des petits scénarios sur les samouraïs, qui vous dites comment ils en sont arrivés là, parce qu'en fait, le scénario du jeu, c'est que ça fait 1000 ans en fait, que ces clans se font la guerre, et qu'un jour, les obsidiens sont arrivés, et ça a relancé la guerre encore une fois. Et donc voilà.
Scénario poussé. Hein.
Ah oui, très poussé. Par contre, le jeu est techniquement magnifique. Enfin, ça, il n'y a rien à dire. Visuellement, c'est ouf. Et le multijoueur est sympathique.
Je suis pas d'accord, donc je vais commencer à faire du bruit.
Le problème est. J'ai dit sympathique, j'ai pas dit très bien.
Prends un biscuit.
Quand tu arrives à y jouer, en fait. Parce que là où le jeu te dit, oui, popularité du mode de jeu très élevé. Il n'y a personne sur les serveurs, donc on se retrouve souvent à du 3 contre 3 avec déjà deux intelligences artificielles pour venir jouer. Du coup, c'est exécrable à jouer en fait.
La feature e-sport qui disait ouais, ça sera un jeu e-sport, etc., c'est complètement ruiné.
C'est dommage parce qu'il y a quelques modes qui peuvent être sympathiques. Je pense savoir pourquoi, Tom, tu n'aimes pas parce que c'est trop simple par exemple par rapport à un Dark Souls.
C'est pas tant ça, c'est parce que c'est technique. For Honor, c'est technique. Le seul problème, c'est que je reste sur ce que j'avais dit la dernière fois. C'est que c'est un combat d'interface en fait. Il n'y aurait pas les graphismes, on peut jouer avec juste l'interface. Et moi je trouve que du coup ça enlève tout le côté organique du jeu.
Bah, justement,
de duel,
en fait, selon ton personnage, l'interface ne te sert plus grand chose. Par exemple, certains personnages qui n'arrivent pas à parer, face à une attaque, tu ne peux pas la parer. Donc il faut savoir être plutôt technique.
Mais justement, ça se fait en voyant l'adversaire qui a une espèce d'aura rouge et où on voit son espèce de donc, petit triangle là d'attaque, on le voit briller. Donc en fait, ça va pas être en regardant les mouvements de l'adversaire, ça va être en regardant en fait, son côté de l'interface.
Il faudrait peut-être un mode hardcore en fait.
Je pense que ça m'intéresserait beaucoup plus.
Ce que vous reprochez, c'est que ça se rapproche pas de Bushido Blade sur PlayStation.
En gros, voilà.
Bushido Blade, c'était fallait vraiment, il y avait aucune indication visuelle, on pouvait mourir d'un seul coup, fallait vraiment regarder les mouvements et les frames d'animation.
Alors moi, je demande pas autant que Bushido Blade, mais pour un jeu qui se dit justement un jeu de duel, je trouve ça dommage de pas avoir. Justement à regarder vraiment son adversaire et juste à regarder son interface. Après moi je suis il se trouve que dans la vraie vie j'aime bien les combats à l'épée et donc j'ai fait un peu d'escrime etc, et du coup c'est peut-être aussi ce côté là que je m'attendais à ce que je me suis dit genre ok alors si c'est un peu comme en vrai il va falloir regarder ce que fait l'autre, et en fait non pas vraiment, il faut juste répondre à ce que fait l'interface.
Oui, bien sûr. Voilà. Après le gros problème que j'aurais aussi sur le jeu c'est le système de leveling en fait, qui c'est sympa, t'as un niveau par personnage donc il y a 12 classes. Donc tu peux avoir 12 personnages avec des niveaux différents, mais le seul problème c'est que pour débloquer du stuff, il y a certains joueurs qui ont calculé, si vous jouez 2 heures par soir, il vous faudrait 2 ans et demi pour débloquer tout le stuff. Donc c'est insupportable, on débloque rien, il faut utiliser le système de micro-paiement si tu veux avoir des armes plus rapidement. Mais par contre, il est assez poussé, c'est-à-dire que chaque personnage, tu peux lui débloquer par exemple le bâton avec quoi il fait l'arme, tu peux choisir l'épaulette, le casque, etc. Ça c'est plutôt poussé, il y a des trucs plutôt sympas, mais c'est vrai que c'est exécrable parce que tu débloques rien et du coup c'est super frustrant.
D'accord. Okay. On avait une question ici, je crois.
Ouais, en fait quand tu parles d'interface vraiment, tu dis on peut jouer sans le visuel et avoir que l'interface, c'est vraiment que l'interface est tellement... Pas tellement de dire que c'est genre...
T'es guidé. C'est exactement ça. En gros, pour te donner une idée, imagine que t'as une sorte de triangle sur ton personnage et sur les personnages qui t'attaquent.
D'accord.
Et en gros tu as un système de garde, donc en haut, en bas, enfin en haut à droite et à gauche, et en fait quand un personnage t'attaque tu vas voir de quel côté sur son triangle à lui de quel côté il t'attaque, et donc ton but c'est de mettre le stick dans le même endroit pour le parer ou alors l'esquiver évidemment. Et du coup il y a vraiment le fait que c'est pas la peine de regarder le personnage parce que les personnages ont des animations différentes si on change la garde, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir le mec mettre son épée au-dessus de sa tête ou mettre son épée près de sa jambe, etc. Mais
il y a va pas avoir en fait de comment dire de mode hardcore où en fait ils vont
en, c'est ça en tout cas il y a voilà. En tout cas à l'instant T moi j'en ai pas trouvé. S'il y en a je l'ai pas essayé et après, moi je trouve ça vraiment dommage que ce soit que de l'interface, que le mec fasse un brise-garde, ouais. On a une icône bouclier sur lui qui se brise pour bien montrer genre attention là il va faire un brise-garde, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a vraiment un côté genre tuto de jeu de combat, tuto de jeu d'opposition à la Street Fighter.
Justement quand tu joues très peu justement oui, c'était vachement aidé. Mais plus le temps passe, plus tu sais comment va jouer le personnage adverse, et lui aussi. Et du coup, c'est là où tu commences à vraiment jouer, en fait, dans ce cas-là, parce que, justement, il comprend comment est ton interface, donc il va faire que de parer.
C'est ça.
Et là, il va falloir trouver d'autres stratégies. Et là, ça commence à se développer.
Après, moi, mon avis est vachement, on va dire, inférieur au tien, puisque moi, j'y ai joué que, on va dire, peut-être 2h30, un truc comme ça, au jeu. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas une grosse expérience que j'ai eue. J'ai joué que le même personnage, donc j'ai vu que les personnages étaient différents, mais à travers l'opposition. Donc, voilà, c'était pas un vrai test que j'ai eu. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'empêche de jouer à ce jeu-là. Bah, c'est le côté trop d'interface.
Le problème le plus embêtant, là, sont les serveurs, en fait.
Oui.
Donc pas recommandé hein, pour l'instant.
Bah, en fait recommandé quand il coûtera
à 20€, je pense. Ouais, 20€, c'est un super jeu à
20€ en GOTY.
C'est un petit peu comme The Division finalement. Bah,
ah non, The Division à 5€.
Très bien, très bien. C'était tout pour toi, Guillaume.
Tout à fait.
Ok, et ben on va passer. Alors, il est en train de manger un gros gâteau. Du coup, ça va être super sympa pour sa chronique. Je comble le temps qu'il avale toute cette nourriture. Voilà. Oh là, oh, tu vas galérer là. Oh là là, là, c'est difficile. Ok, alors je te confie le micro et je te laisse pour ta chronique.
C'est parti. Alors du coup, moi je vais vous parler de Laval Virtual. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce petit salon de l'innovation qui s'est passé le 22 au 26 mars. C'était sa 19e édition. Alors qu'est-ce que c'est vraiment Laval Virtual ? C'est le salon de la VR, c'est le salon de la réalité augmentée, c'est l'événement de l'année. Donc c'était séparé en deux parties, on avait les trois premiers jours qui étaient vraiment basés sur le professionnel et la deuxième partie sur le week-end qui était pour les particuliers. Donc on y retrouve de la robotique, des hologrammes pour les musées, on y retrouve du cinéma géant virtuel, des drones pilotés par des mouvements par la main qui est géré par Pulsite. Je vous recommande d'aller voir, vous avez bien sûr la projection mapping, je vais vous en parler un peu après. De l'imprimante 3D qui imprimait des Yoda pénis. Oui, tout à fait, c'était un stand d'impression 3D et ils imprimaient tout plein de choses avec des pénis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un salon qui est ouvert à tout le monde, dont les enfants. Donc lorsque les parents se retrouvent à expliquer aux enfants pourquoi Yoda a un pénis, c'était assez marrant. J'ai parlé un peu avec les types, ils m'ont expliqué que c'était tout à fait normal et qu'ils trouvaient ça très marrant. J'en dis un peu moins, oui.
Est-ce que les drones peuvent soulever les enfants maintenant ?
Alors ça dépend des charges, mais normalement ça dépend de la puissance du drone, mais logiquement oui. Parce qu'il y a un type qui a été propulsé par un drone et qui faisait du snowboard en fait. Du snowboard ou même du wake.
Est-ce que les drones peuvent soulever des pénis ? On parle de pénis dans le chaleur.
Oui, si t'es bien harnaché, il n'y a pas de souci, ouais. Donc j'ai continué un petit peu, je vous ai pris quelques éléments que j'ai trouvé sympathiques dans le salon. Parce qu'il y a énormément de stands, il y avait plus d'une centaine de stands différents et la plupart c'était très pro. On avait des trucs au niveau... visite d'un appartement ou des choses comme ça, donc ça reste assez mineur en tant que gamer, mais ça peut être marrant. Donc au niveau des mouvements, je vous ai chopé un truc qui est super intéressant, c'est la balance de simulation de marche infinie. Donc sous ce magnifique nom se trouve en fait un système qui vous permet de marcher à l'infini. C'est une petite plateforme comme une balance où vous simplement vous tapotez vos pieds, vous êtes reposé sur une barrière qui fait 360 degrés autour de vous et vous allez pouvoir en fait vous mouvoir. On a retrouvé ça déjà dans le CES, ouais.
Est-ce que c'est un jeu d'horreur ?
Non, justement, en fait, c'est un accessoire. C'est vraiment un accessoire qui va permettre de vous mouvoir, en fait. Donc, c'est l'université de Hiroshima qui fait ça. C'est le High Immersive Infinity Walking System. Un autre élément aussi, c'était une table de ping-pong augmentée. Donc, c'est développé par des types de Berlin. Ils sont 5. Et c'est quelque chose, en fait, qui est bardé de capteurs et qui chope, en fait, la mouvance, en fait, de la balle. Et vous retranscrivez ça en fait en image directement sur la table. Et en fait, vous voyez votre progression, vous voyez la balle passer, etc. Les zones où vous pouvez balancer les choses. Donc, il faut savoir que c'est raquette en NFC, c'est NFC, c'est système de tracking en infrarouge. Et le petit objet what the fuck s'appelle, c'est un jeu qui s'appelle Monster Cleaner. C'est développé, comme vous le pensez tous, par des Japonais. Voilà. Vous imaginez un peu le bordel. C'est développé donc par l'Institut de Technologie.
Non, j'allais dire ça consiste en quoi, mais je pense que tu vas nous l'expliquer, Monster
Tout
Cleaner.
Tout à fait, ouais. Alors, Monster Cleaner, c'est un jeu qui est développé pour les enfants.
Et le but, c'est de leur apprendre à nettoyer le sol. Donc, c'est un vrai aspirateur.
C'est parfait.
Voilà. C'est pas pour rien que c'est japonais. C'est un véritable aspirateur qui est bardé de capteurs, avec bien sûr une corde de 50 mètres de LED dessus. Donc, c'est un truc, c'est une lanterne. Et ça propose, donc, je cite le type. Je sais pas si Guillaume, tu peux me faire une petite voix de japonais.
Moi ?
Ouais, avec ta bouche, fais-moi un petit accent japonais.
Bonjour, non, je sais pas.
C'est pas grave.
C'était le moment c'est un peu raciste quand même, ouais.
Non, pas du tout, c'était pour faire la traduction. Donc, je cite la personne qui dit « Les enfants n'aiment généralement pas nettoyer leur chambre. Pour changer tout cela, nous proposons un jeu sérieux qui mélange nettoyage et fun pour motiver les enfants à nettoyer leur chambre. » C'est ce que m'a dit. C'est ça, et le pire, c'est que j'ai essayé ce truc.
Et tu t'es amusé.
Et je me suis amusé.
Ah, ouais, c'était excellent. Ah, ils sont forts.
Est-ce que t'as rangé ta chambre après ?
Bah non, parce que j'ai pas pu le ramener, ouais.
Parce que je me disais, on est passé à un gros paradoxe. Maintenant, les parents vont venir en mode chérie, arrête de jouer à ranger ta chambre, ranger ta chambre,
c'est
s'il
simple.
Te plaît.
C'est ce que j'expliquais au type. Je sais, mais il va avoir un problème, c'est que le gosse va vouloir aspirer en fait son tapis pendant 3 heures et ça va être un bordel. Vous imaginez les parents qui sont derrière en train de dire non, mais s'il te plaît, arrête de passer l'aspirateur, ça fait du bruit. Mais maman, je veux jouer à aspirer les monstres et tout. Donc j'ai pu essayer, donc c'est
alors, tous les trophées.
c'est assez marrant, c'est du coup une interface, c'est la réalité augmentée au final, donc ça vous est affiché par un écran, vous allez voir justement vous en train d'aspirer des petits monstres, vous les voyez pas parce qu'il n'y a pas de HoloLens, il n'y a pas de casque VR, simplement projeté sur un écran, donc c'est encore à l'état de concept. Mais voilà, c'est un jeu sympa, et le dernier petit truc, je fais vite fait, c'est un jeu indépendant, c'est français, c'est développé par AP Soft, et c'est Pierre que j'ai rencontré qui m'a parlé de Doll City. Alors Doll City, c'est un jeu totalement VR, donc il n'y a rien de hentai dedans ou quoi que ce soit.
Oh, bah on s'en va.
Vraiment,
merci non, Sushi.
Pas de soucis, mais la prochaine fois peut-être, je vous trouverai un soft un peu sympa. Là, c'est un univers totalement cyberpunk. On sent vraiment les inspirations de Blade Runner, de Ghost in the Shell. Vraiment, on est dans un univers magnifique, dans une ville vachement... avec des lumières, en fait, qu'on trouve vachement dans ces univers un peu cyberpunk. Je vous laisse imaginer.
Du sexe aussi, un peu. Genre néon partout.
Ouais, c'est ça, ouais, vraiment, avec des robots partout. Et on est dans un ascenseur, donc bien sûr, avec un casque VR. Donc j'ai pu essayer avec l'HTC Vive, j'ai pu essayer avec l'Oculus Rift. Il y avait tout plein de casques à essayer. Super jeu, super sympa, en early access à 15€, vous pouvez le trouver sur Steam. Je vous laisse regarder, petite pépite.
Ok, bon, on va faire une petite pause, je suppose.
Ouais, hein. Moi j'aimerais bien tester le jeu avec les monstres quand même.
Ouais, bah, t'achèteras un aspirateur.
Un petit succès aspiré pendant 20 heures d'affilée, tu sais.
Moi, pour tuer les voisins, quoi.
On va se faire du coup une petite pause médicale et après
on va
s'écouter. On va attaquer notre invité après.
La musique de la publicité du jeu Mass Effect Andromeda, musique sympa pour un jeu pas terrible. Allez, on se retrouve juste après dans C'est la faute à la manette.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
On vient de s'écouter du coup la musique de Rag & Bone Man et on est toujours dans C'est à foutre à manette sur Radio Campus Tours.
Et donc on passe à la rubrique spéciale Le Débat, qui n'est pas un débat cette fois puisqu'on accueille un invité, donc Ludo, hein, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui fait partie de l'association Palo Altour. Hein, tu nous confirmes toujours ça.
Exactement.
Ça n'a pas changé depuis 10 minutes, c'est très bien, c'est incroyable. Et donc comme c'est Tom qui nous l'a amené, il va commencer à lui poser quelques questions sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Alors, et faire une émission absolument géniale.
En premier donc, le thème de notre débat du jour, ça va être les Game Jam. Donc Ludo, ouais, forcément, il va falloir présenter. Qu'est-ce que c'est une Game Jam ?
Globalement, c'est un week-end que vous sacrifiez pour coder Cop des Valades sur un jeu. On a plein de formats qui ressemblaient un peu à ça sur Tours. Il y a le Startup Weekend par exemple, où l'idée c'est la même chose mais une startup. Et il faut faire un proto dans le week-end et évaluer le truc. Quoi, c'est vraiment prendre un week-end complet pour essayer de réaliser un jeu et se challenger. Et du coup, la Ludum Dare en particulier, c'est se challenger soi-même à l'origine sur est-ce que je peux faire quelque chose en 48 heures.
Et donc du coup, dans ce genre de rassemblement, est-ce qu'il y a un prix à gagner ? Est-ce qu'en fait c'est un concours ? Est-ce qu'il y a des enjeux ? Ou est-ce que c'est juste pour s'améliorer ?
Ça arrive, mais en l'occurrence, pour la Ludum Dare de Tours, c'est pas le cas. Et la Ludum Dare au sens général, c'est pas le cas. C'est juste un grand rassemblement mondial.
Donc c'est vraiment juste, ouais, voilà. C'est, je viens, imaginons par exemple, je veux participer. Est-ce que je peux venir tout seul ? Est-ce qu'il faut que je vienne avec une équipe ou est-ce que je peux m'intégrer à une équipe ?
C'est ouvert. Justement, on a un peu tous les formats. D'ailleurs, dans les gens qui sont en train de s'inscrire, il y en a qui sont en train d'essayer de constituer une équipe. Il y en a qui viennent en mode « je sais pas, je connais rien et je connais personne ». Donc, on verra bien sur place. Là, plus de la moitié des inscrits sont en mode « je viens découvrir et j'ai pas constitué d'équipe ». Donc, il y aura assez facilement moyen de constituer une équipe sur place, quoi.
Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est, à la radio, on parle beaucoup des 48 heures de cinéma.
Ouais.
Donc, c'est le même principe. Sauf que c'est dans l'univers des jeux vidéo informatiques. Voilà,
voilà, c'est l'idée, c'est de réaliser, on est d'accord, un jeu en 48 heures, c'est-à-dire de l'idée au concept, au développement, à la programmation, jusqu'à
avec
la sortie d'un...
Avec, je pense, un thème imposé, c'est ça ?
Alors, ça dépend des game jams.
Ouais.
Là, en l'occurrence, sur la Ludum, ouais, il y a un thème. D'ailleurs, les votes sont courts. Donc là, on est sur la première phase, qui est la proposition des votes. Donc, pour les gens qui veulent proposer des thèmes, il suffit d'aller sur le site et d'aller proposer des thèmes. Et puis après, il y a une phase d'élimination. Et le thème est annoncé le vendredi soir.
Oui.
Est-ce que vous passez par une plateforme de création ou un moteur graphique en particulier pour
c'est
créer
ouvert.
Les jeux ?
Alors, à l'origine, la Ludum Dare, il fallait y être avec ton bit et ton couteau. C'était vraiment pas de framework, pas d'outils de génération et c'était tout seul et tu dois tout faire, les graphismes, la musique, from scratch. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, ça accepte les choses comme Construct qui sont accessibles pour des non-devs. Ça accepte les choses comme Unity qui font partie des plus gros outils dans le monde de l'indé, Unreal Engine, etc. Enfin, tout est accepté du moment que c'est accessible à tout le monde.
D'accord. Est-ce que toi en particulier, tu avais programmé déjà des jeux et qu'est-ce que c'était ? Est-ce qu'il y en a un qui t'avait marqué ou pas ?
Dans ceux que j'ai fait.
Dans ceux que tu as fait toi-même, ouais. Moi, je suis curieux.
Alors, qui m'est marqué ? Non. Plein de trucs de merde. Non, par contre, un truc qui m'a marqué, c'est un des résultats de la Ludum Dare précédente qu'on a faite en août à Tours où il y a un pote, il s'est dit « je vais faire la Ludum Dare en mode… » pour de vrai,
ouais.
Et je vais tout recoder à la main et tout ce qu'il a réussi à faire c'était des cubes qui s'enfonçaient les uns dans les autres.
À l'ancienne il est arrivé à ce résultat là.
Ouais, en gros on était au stade du moteur physique pas fini quoi.
D'ailleurs il me semble que dans ces compétitions il y a parfois des jeux hein, qui émergent complètement et qui sont devenus par la suite assez connus, assez célèbres.
Complètement.
Il y a Surgeon Simulator il me semble qui a fait une Ludum Dare comme ça.
Alors Surgeon Simulator moi je suis pas sûr.
God Simulator par contre.
God Simulator. Il y a surtout FTL. FTL que tout le monde aime, voilà. Faster Than Light.
Est-ce qu'il n'y avait pas Super Hot aussi
C'est bien possible. Je verrais bien.
Super Hot.
Je crois que Super Hot.
Il y a Double Kick Heroes, un jeu que vous allez bientôt voir.
Oui,
voilà.
Surgeon Simulator, c'est un 48 heures.
Ouais. Ok,
d'accord. Okay.
Double Kick Heroes, je reparle de Double Kick Heroes parce que c'est des amis. Je vous embrasse. Hein, on reparlera de vous, on vous invitera. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de jeux qu'on...
Il y a toute une liste sur Steam sur la Ludum.
D'ailleurs,
ça y est, dans les, la partie FAQ, je crois, de la Ludum, où il y a tous les jeux qui sont sortis là, mais... là comme ça j'ai les jeux en tête mais pas les noms qui reviennent, mais
d'accord,
il y en a énormément, il y en a une bonne trentaine qui sont sortis de la Ludum, qui sont vachement reconnus
et qui sont développés, qui sont redéveloppés après, etc. Ça fait vraiment, puis ça crée des équipes aussi, on parle des jeux mais aussi ça crée aussi des équipes quoi, donc des gens qui vont se retrouver pour développer après d'autres jeux, d'autres titres, etc. C'est des choses qui permettent d'unir des talents qui n'est pas forcément voué à se rencontrer.
Alors petite question d'ailleurs, si encore une fois, imaginons que je veux participer, mais on va dire je sais rien faire. Est-ce que je peux venir quand même, ou est-ce qu'il faut que je vienne avec un talent particulier? Imaginons je sais genre juste un peu jouer un peu de musique, mais je m'y connais pas trop en intégration de la musique d'un jeu. À quel point est-ce qu'il faut que je m'y connaisse pour participer?
Si t'as une barbe déjà. Pour commencer.
Tu sais faire le café aussi, je pense.
Café et barbe,
c'est quand même des questions assez importantes. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde?
Ouais, du coup, effectivement, on aura besoin de gens pour faire le café.
Ouais.
Non, sinon, justement, on a des ateliers qui commencent à partir de la semaine prochaine pour préparer les gens qui voudraient commencer à découvrir avant. Sur place, on aura de toute façon pas que du développement de jeu, mais aussi de la création de jeux de plateau. Donc à partir du moment où vous savez utiliser un ciseau, quelques crayons et que vous avez des idées, normalement il y a moyen de faire quelque chose.
D'accord.
Il y aura le Fab Lab, un de nos partenaires, qui est une association aussi, qui sera là pour faire de l'impression. Donc s'il y a des figurines à imprimer, du carton à découper au laser, etc. Enfin, il y aura tout ce qu'il faut.
Stylé. Donc tu nous dis à partir de la semaine prochaine. Hein,
à partir de la semaine prochaine, il y a des ateliers. On retrouve sur l'agenda de Palo Alto, sinon sur tous les trucs qui parlent de nous en ce moment.
D'accord. Voilà. C'est pas uniquement le week-end, c'est vraiment réparti.
C'est-à-dire la partie dev, vraiment le concours se passe le week-end, mais il y a vraiment une phase en amont où les gens peuvent venir pour apprendre à faire du jeu. Et en plus, c'est pas fermé aux gens qui vont pas participer. C'est aussi ouvert aux gens qui veulent juste découvrir comment faire un jeu.
Ça pourrait m'intéresser.
Où est-ce que ça se fera justement, les ateliers et
concours? Les ateliers, la majorité se font à la cantine numérique au Sanitas. Et sinon il y a celui avec le Fab qui va se passer dans les locaux du Fab Lab, qui seront du coup au MAM, l'ancienne imprimerie qui a été réaménagée, et le concours lui se passera au MAM.
D'accord. Okay.
Petite du coup question supplémentaire, qu'est-ce que ça a été, quels ont été du coup les défis pour organiser une Ludum Dare?
La crédibilité, je crois, c'est le premier truc. Un truc sur du jeu, déjà en général, le premier truc qui vient à l'esprit des gens, c'est pas sérieux. Le deuxième, c'est que cette année, on aurait aimé aller chercher du sponsor, mais au final, on s'est pas assez préparé sur cette partie-là. Du coup, on s'est un peu fait envoyer balader gentiment sur le fait que pour l'instant, on n'avait pas grand-chose à proposer en retour d'investissement, ce qui était vrai, du coup, hein, en même temps. Du coup, cette année, on essaie vraiment de travailler la partie com, la partie pour montrer qu'on a un peu de poids, qu'on a un peu de qu'on s'investit vraiment dans le truc, qu'on veut le porter jusqu'au bout. Et même à l'intérieur de l'asso, il y a eu quelques moments où c'était en mode « Ouais, vous êtes sûr, il y aura du monde, etc. » Et non, pour l'instant, ça tourne bien. On a vraiment du monde qui s'inscrit, plein de gens qui sont intéressés. Et les feedbacks de la dernière étaient vraiment super. On avait fait une en août où on était 15 participants. Et les gens étaient en mode « c'est quand la prochaine ?» Ils étaient super chauds. Et voilà. Donc du coup, pour l'instant, tout est ouvert. Mais effectivement, sinon après, sur le reste, c'est plutôt traditionnel pour nous au niveau orga. Donc pas de grosses difficultés.
D'accord. Et du coup, Palo Alto en général, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept?
C'est une association, enfin c'est une... Alors la formulation, je crois que c'est Startup, Associative Numérique.
Startup,
C'est ça. Bon, l'idée c'est avant tout une association, et le but c'est essayer de pousser le numérique, l'innovation dans la Touraine, mais aussi un petit peu sur la région, parce qu'on fait aussi des activités qui dépassent un peu Tours. Notre plus grosse activité et celle qui fait vivre beaucoup l'association, c'est le Startup Weekend, donc un hackathon de création de startup qui est une fois par an, voire deux fois, parce qu'on a aussi des thèmes des fois qui émergent. Typiquement, l'année dernière, qui a super bien marché, on a fait Startup Weekend e-santé, qui était sur tout ce qui est autour de la santé et du bien-être. Après, beaucoup de meet-up sur le développement logiciel. Tout ce qui va être autour du Java, du JavaScript. On a aussi le lundi une permanence pour les gens qui veulent s'intéresser au développement de près ou de loin.
D'accord.
Y a aussi du design. On a les ateliers du web design où du coup c'est des designers qui ont initié ça pour réseauter un petit peu. Bon, pour l'instant c'est essentiellement des devs qui y vont, mais les designers sont bienvenus au contraire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment énormément d'activités. Il y a le l'apéro entrepreneur une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois, du coup l'idée c'est de se rencontrer entre entrepreneurs, réseauter, en gros se sociabiliser, sortir un petit peu de son tunnel, rencontrer d'autres gens, avoir du feedback, enfin c'est plein de choses. On a aussi des soirées bêta test, enfin je pense que je vais pas tout citer, mais
c'est la création numérique dans son ensemble. Ouais, concrètement hein, c'est si tu pouvais résumer,
c'est exactement ça,
c'est un petit peu ça.
Il y a vraiment beaucoup d'activités autour
et le partage.
Et le partage.
Et le partage, ouais.
Bah, les meet-up, effectivement, sur le dev et le web design, c'est complètement ça.
Et on rappelle, hein, ouvert à tous, hein, c'est important. Tu avais l'air aussi de vouloir mettre l'accent dessus. C'est que tout le monde peut y aller, que tu es développé ou jamais, ou que tu sois le futur codeur de demain. A priori, tu peux y aller.
Est-ce que tu peux nous rappeler les dates exactes, donc, si tu les as, des ateliers puis
Alors,
pas du,
les
du
ateliers, il y a la semaine prochaine, que je te dise pas de bêtises. Sinon, là, le Doom d'arrêt, ce sera du 20 au 23. Ensuite, le 12, il y a l'atelier avec le Fun Lab. Mm-hmm. C'est aussi vite que je
confirme. Il n'y a pas de souci. Même les nôtres, on ne les connaît pas. Donc,
ouais, le 11, il y a la partie un atelier Construct 2 pour faire un platformer. Pour les gens qui ne savent pas coder, c'est un bon moyen de faire du jeu avec quelques notions. Il y a un peu de logique malgré tout cachée derrière, mais à partir du moment où on est capable d'assembler un peu de logique, on peut faire du jeu avec. Donc il y a la soirée hybride qu'on a appelée le 12 avril au MAM avec le Fun Lab, hein, pour découvrir un petit peu les outils et puis être sensibilisé à ce qu'on pourra faire pendant le week-end avec. Il y a le 13 du coup un atelier pour les graphistes pour venir discuter un petit peu de technique. Parce que là on n'a pas vraiment d'atelier sur cette partie-là, ça va être plus un moment d'échange. Parce qu'on n'a pas identifié de designer qui a été intéressé par faire un atelier vraiment sur cette partie-là. Et puis ça nous paraissait un peu compliqué à monter. Le 18, du coup, on aura un atelier pour faire des jeux d'aventure avec Adventure Game Studio. L'idée, c'est faire un jeu très scénarisé, avec peu de connaissances, en quelques minutes. Et on fera aussi un atelier sur tout ce qui est autour du son. Là, c'est pas encore déterminé exactement comment ça prendra forme, parce que potentiellement on a des choses dans les tuyaux, mais rien est complètement fixé. Mais voilà, vraiment l'idée, ça va être de découvrir les outils qu'on peut utiliser. On passera par du générateur de musique qui est autorisé maintenant sur la Ludum Dare, générateur de musique, générateur d'effets sonores, ou comment justement essayer de faire quelque chose soi-même si on est un peu chaud là-dessus. Enfin voilà, c'est vraiment.
Ça a l'air hyper complet en tout cas. Hein.
C'est l'objectif.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça a l'air.
De toute façon, on mettra toutes les infos sur nos réseaux sociaux,
fera un post,
on partagera,
spécial,
etc.
Quoi qu'il arrive.
On rappellera l'événement quand il arrivera, etc. Voilà.
Ouais.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, ou est-ce que tu as un petit message à faire passer tant que tu es la radio en direct?
Dédicace.
Une petite dédicace, quelque
vas-y,
chose.
Vas-y. N'aie pas peur.
Pas spécialement. Après, il y a le plus gros feedback et le truc qui nous a rendu le plus fiers d'avoir organisé la première, je crois, c'est les retours qu'on a eus, où il y avait une personne qui ne savait pas coder, qui est arrivée le vendredi soir en sachant pas coder, qui a fait son jeu, et c'est un des rares jeux qui a été réalisé et sur lequel c'est jouable. qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une personne qui était développeur que sur son temps libre. Mais vraiment que sur son temps libre, et qui s'est retrouvé entouré de développeurs professionnels autour de lui en mode pourquoi t'en fais pas ta vie. Ah ouais, c'est vrai, je pourrais. Et du coup, qui est en train de se reconvertir et qui du coup va rentrer dans une école pour quand même avoir un diplôme à la fin, c'est qu'il cool. le valorise, mais qui a commencé déjà à travailler en tant que dev, etc. Et du coup, il était super content, quoi.
Alors, une question qui a rien à voir, est-ce que tu connais le jeu Human Resource Machine?
J'en ai entendu parler juste avant.
J'en ai parlé juste avant l'émission.
Ah oui, c'est vrai, t'en as parlé juste avant l'émission. Effectivement, c'est un jeu fait par les créateurs de World of Goo, qui est absolument génial, où tu apprends à coder, mais de manière simplissime, c'est-à-dire avec des petites commandes assez simples. Voilà.
C'est vraiment l'algorithmie pour les nuls quand on joue.
Voilà.
C'est parfait pour moi, ça, tiens.
Inbox, outbox, jump, vraiment les copies de base.
Dans l'idée, justement, on a le samedi après-midi, il y a des enfants qui vont venir au Coding Goûter, qui est un événement qui est récurrent aussi dans Palo le tour, et les enfants vont venir publier leur jeu, et ce sera fait avec Scratch.
D'accord,
et Scratch est un de ces outils aussi pour apprendre à coder, et qui est hyper accessible, et du coup les gamins vont faire leur jeu.
D'accord. Il me semble que c'est Born in the 80s aussi qui nous en avait parlé, justement, qui faisait ça,
qui utilisait ça,
l'association à Tours de Retro Gaming. Et ouais, il nous avait dit que ça marchait plutôt bien ces ateliers, donc tant mieux que ça se développe, c'est important que les enfants de plus en plus sachent les logiques d'algorithmie, parce que franchement, je pense plus on est élevé avec un langage au plus jeune âge, plus on comprend la logique et ça devient de plus en plus simple.
Et puis, c'est pas les profs de leur collège ou lycée qui vont leur apprendre, hein. de toute façon, ça c'est sûr.
L'idée derrière...
Aussi, attends, je vais rajouter aussi que ça devient maintenant le code une vraie langue. C'est-à-dire que maintenant,
c'est pas
langage,
un truc de geek juste.
Ouais. C'est plus un langage de geek maintenant, c'est devenu une langue qui doit être courante pour la plupart de la population quand même, parce que ça devient une utilisation de tous les jours. Quoi. On voit partout maintenant.
C'est sûr, ouais.
Mais l'idée derrière ces ateliers, en fait, à l'origine, c'est surtout sortir les enfants de ce côté. L'informatique, c'est effrayant, ça a l'air compliqué, et leur faire comprendre qu'en fait, c'est simple, ça s'apprend, et que c'est accessible. Quoi.
On doit que tu fasses quelques ateliers par an aussi, hein, ça ferait pas de mal pour certains. voilà. Ben, en tout cas, merci, hein,
merci beaucoup.
Merci beaucoup. Toutes nos questions, et on va passer à la dernière phase de l'émission.
Ouais,
et on va mettre
la plus rigolote, le quiz. Hein, bien sûr, tu peux participer.
T'as ta case. T'as le droit. T'as ta case.
Et ça, c'est le seul générique sur lequel tu peux parler
en même temps.
C'est le générique.
En fait, on peut faire ce qu'on veut dessus.
C'est notre moment détente. Je peux manger un bout de gâteau.
C'est ça, on va pas manger par du quiz. C'est ça.
Ce sera le quiz, hein, avec la musique qui va démarrer tout de suite. Je crois que Guillaume a pris un gâteau avant de la lancer.
C'est faux.
Donc, le thème de ce quiz, ce sera les héroïnes de jeux vidéo. Hein. Vous l'avez sans doute lu sur le conducteur car vous êtes assidus et vous le remplissez parfaitement, n'est-ce pas, Tom?
Oui.
Il faudra effectivement deviner des noms d'héroïnes de jeux vidéo. Et, qui joue? Donc, Guillaume, hein, bien sûr. Notre invité joue. Ferdi, tu joues. Toi, tu joues.
Et les deux, ils jouent pas. Non, on s'en fout.
Et eux deux, ils vont essayer de jouer.
Ils sont punis.
On rappelle les règles quand même.
On lève la main et on dit son prénom
pour répondre, et on balance pas la réponse comme un sauvage, hein, notamment. Alors, question numéro 1 pour 2 points. Issue de la section tactique armée et experte en explosifs, elle est spécialiste dans le crochetage de serrures.
Tom, Jill Valentine.
Exactement, ça te fait 2 points. On ne peut pas jouer avec Tom, hein, généralement. c'est le mec qui gâche l'ambiance, hein, dans la fête, qui sait déjà.
Très fun.
Question numéro 2 pour 2 points, toujours photographe de guerre.
Jad Beyond the Niveau.
Bien, incroyable, incroyable. 2 points.
Ça marchait aussi avec le héros de Pie Vol Dead.
Frank West.
Ouais,
mais là, on est dans héroïne. Il va mal le prendre.
Frank West se déguise en femme. Ça raconte. Super, si Frank West s'identifie comme une femme, c'est une femme. Voilà.
Éventuellement. Question numéro 3 pour 2 points. Je suis le portrait du docteur Catherine Halsey. J'ai les mêmes goûts et les mêmes idées que cette dernière. Je suis celle qui a choisi ma forme et cela a
Tom Cortana.
Oui, effectivement, Cortana de la série Halo.
Ah oui, on était obligé de te laisser.
C'était un peu obligé.
On va laisser Tom jouer tout seul.
J'adore les femmes.
Question numéro 4 pour 3 points. Devenue folle depuis la mort de mes parents dans l'incendie de notre maison, je traverserai l'entre-deux-monde pour me retrouver et découvrir la vérité.
Ah, c'est pas la meuf dans Silent Hill?
Ce n'est pas ça.
C'est la meuf dans Eternal Darkness.
Ce n'est pas ça non plus.
Alors, incendie? Enfin, incendie et femme qui se balade dans l'entremonde, c'est Silent Hill.
Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça.
Un indice.
Dans Fear, Alma.
Non plus. C'est oui.
Glenn, Ico.
Non plus. C'est tiré d'un conte à la base.
Alice. Madness Returns.
Exactement.
Ah,
un seul point. Merci à Julien de me l'avoir prêté.
Un seul point pour toi, Tom. Question numéro 5 pour 3 points. À 14 ans, je quitte tout pour m'enfoncer encore plus dans ce monde de fou. Accompagné de Joël, je m'aventurerai dans
Vas-y.
Allez.
J'ai oublié le nom de toute façon. Toi aussi, tu l'as oublié. Si je fais du bruit, tu vas oublier.
Allez, c'est
Ellen Page, ouais, mais c'est pas
elle. C'est The Last of Us, oui, il a dit.
Eline.
Non, ce n'est pas Eline.
Ellie.
Allez, ouais, ça marche. Ça te fait 3 points. Question numéro 6 pour 4 points. Je cours, mange des bonbons et des fruits. Je parcours les mondes bloqués entre des murailles et poursuivi par des monstres.
Glenn, Gravity Rush?
Non. Mon signe distinctif, un petit nœud rouge.
Oh là là.
Tom, Mrs. Pac-Man.
Oui,
Mrs. Pac-Man. C'est honteux.
Question numéro 7 pour 4 points. Blonde, je porte une robe violette et une capuche orange. Vous fondrez d'amour pour moi, tout comme mes créateurs qui me feront apparaître dans une série en plus d'un jeu vidéo. Ma seconde transformation est un zombie à la toute fin du jeu.
Comment il s'appelle ce jeu un peu nul de chez Platinum là?
Ce n'est pas ça.
C'est pas ça? Ah ok. Alors, redis.
Un petit indice, hein, c'est plus du travestissement qu'une vraie héroïne de
jeu
vidéo.
Tom Poison de Street Fighter. Ah bon? Pourtant, niveau 13.
Une robe violette et une capuche orange.
Robe violette, capuche.
Biche. Non.
Ah non.
Elle aura mal tourné, mais c'est possible.
Elle a pas de capuche.
Ah, violet et orange, ça fait très Splatoon, quoi.
Oui.
Mais...
Glenn,
t'as parlé de travestissement, donc Zelda.
Non plus. Un autre indice tiré d'une série animée assez vulgaire.
Série animée vulgaire.
Voilà, ça c'est. Wow.
Il devient un zombie à la fin, quoi.
Qui en est à 20 saisons.
Les Simpson.
Non.
Ondine dans Pokémon.
Non plus.
20 saisons. Il y en a pas tant que ça.
20 saisons. Yu-Gi-Oh.
Allez, on va s'arrêter là. Ouais. C'était Princesse Kenny.
Ah, Princesse Kenny.
Princesse Kenny.
Oui, d'accord.
Dans le jeu. Effectivement.
Ouais, mais oui.
C'est 20 saisons, ça se part qu'on n'est pas à la 16 ou à la 17.
Presque 20. Hein.
Oui, non, je crois qu'on est à la 19 ou la 20. Ouais.
On est à la 20, ouais. Question numéro 8 pour 4 points. Je me balade accompagné de mon papa. Mon univers est fait de pétales de roses rouges. Tout est lumineux et joyeux.
Tom, une petite sœur dans Bioshock.
Exactement.
Mais tais-toi.
J'ai lu le script.
Mais quelle violence. Question numéro 9 pour 5 points. Équipé de son Falcon 2, elle aura pour but de déjouer les plans de la Datadyne et des Skedar.
Ouf,
ça vous dit quelque chose, hein?
Oui.
Falcon 2.
Ferdi, Samus?
Non.
Les Skedar. Les bonhommes aux Skedar.
Le premier jeu est sorti sur N64. Le deuxième est sorti.
Perfect Dark.
Non, c'est Johanna Dark.
Johanna Dark, effectivement, de Perfect Dark.
Johanna.
Et la dernière question, même si Tom a déjà gagné, du coup.
Ah bah là, oui. Il a gagné depuis 5 questions.
Question numéro 10 pour 5 points. Inspectrice à la police de NYPD, elle devra arrêter Melissa Pierce qui s'est transformée à cause de mitochondrie.
Ah, Tom, c'est l'héroïne de. Ah merde, j'ai le 2.
C'est Claire Redfield.
Non, c'est pas Claire Redfield, c'est l'autre. C'est lui où t'as de l'énergie, de la mitochondrie, là, des PE.
Ah, c'est Parasite Eve.
Et l'héroïne, c'est. Comment
s'appelle l'héroïne?
Aya Brea. On l'accorde quand même à Ferdi.
Ah, donne-moi mes 5 derniers points quand même.
Et c'est Tom. Je crois que Tom a largement gagné.
Ah bah,
Tom a gagné. Est-ce qu'on peut faire le décompte quand même?
Alors, Tom a gagné avec 5, 10, 14, 15, 19 points.
100 milliards de points.
5 pour Glenn et 5 pour moi.
Est-ce que pour ma victoire, j'ai le droit de faire ma petite news Star Citizen?
Ah, vas-y.
Allez, vas-y, parle-nous de Star Citizen.
Je tiens à vous dire dans les dernières minutes qui restent que la 2.6.3 est sortie. Donc vous avez encore une mise à jour de 35 gigas à faire. Ce qui vous permettra.
Elle est sortie des PTU.
Elle est sortie du PTU, donc du Private Test Universe. Donc tout le monde peut la voir. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette nouvelle mise à jour? On peut faire voler un des nouveaux vaisseaux, donc le Drake Buccaneer. Voilà, personne qui n'a pas joué au jeu ne comprendra évidemment. Et ils ajoutent la méga map, donc c'est une map générée d'un coup qui fait une taille gigantesque et donc qui permet de ne pas avoir de temps de chargement dans le jeu. Ce qui nous annonce donc les versions d'après sans aucun temps de chargement.
Cool. Là on commence à accéder au fantasme. Voilà.
Pour donner un ordre d'idée, les chargements c'était l'équivalent de 3-4 minutes, même pour certains 7 minutes de chargement. On est passé à une trentaine de secondes, une minute.
C'est ça, pour les non-machines de guerre, on va dire. Ouais, ouais. C'est vraiment.
Pour la moyenne des gens.
C'est ça, pour la moyenne des gens. Et donc là, on est sur on est sur de la très très grosse optimisation. Ouais. Voilà.
D'accord, et du coup, ouais, je pensais échapper à Star Citizen pour cette émission, et c'est complètement raté. On va terminer l'émission maintenant. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que le Facebook Live vous a plu. Hein, vous pourrez toujours le revoir, je pense. Il y a un replay de toute façon des Facebook Live.
Toujours. On remercie notre invité.
On remercie notre invité, Ludo. Merci d'être venu.
On va redonner toutes les informations.
On redonnera toutes les infos sur la page Facebook. On vous fait des bisous. On vous dit à dans 2 semaines pour un thème qui sera Persona. Allez, bisous, à bientôt.
Des bisous.